j'en boirai plus. Ah, j'en boirai plus, c'est ben triste à dire, pour un vieux paysan qui a tant vu comme moi le vin des vendanges en un clair sourire, pisser du persouet, comme l'eau du touet, pisser du persouet, comme l'eau du touet. On aura beau dire, on aura beau faire, faudra plus d'un jour pour remplir nos fûts de ce sang des vignes qui rougit mon verre. J'ai comme dans l'idée, j'en boirai plus, j'ai comme dans l'idée, j'en boirai plus. À présent, chez nous, tout le monde gueule misère, on va à la ville, où l'on crève de faim, on vend pour rien le bien de son grand-père, et l'on brûle ses vignes qui n'amènent plus de vin, et l'on brûle ses vignes.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Libertaire, 89.4 FM, sur les ondes et en ligne. La radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. C'est l'émission où on a déjà traité le sujet de l'association des cinéastes documentaristes ad hoc. Dans les studios, aujourd'hui, Frances Mello, Marcia Lacombe et moi-même, Niki Velissaropoulou, et à la technique, Colline Pevelet. Bonjour.
Bonjour.
Pour cette émission consacrée à la mémoire et à la résistance et au cinéma, nous avons le grand plaisir d'accueillir deux cinéastes documentaires, Tamara Stepanian et Shuaib Gazmelbari. Bonjour Tamara.
Bonjour
Shuaib.
Bonjour Niki.
Tamara Stepanian est une réalisatrice arménienne née à Erevan. Elle vit et travaille entre l'Arménie et la France, et son cinéma explore notamment la mémoire, l'exil, l'identité et les bouleversements de l'histoire. Elle vient aujourd'hui nous parler de son film « Mes fantômes arméniens » qui a été présenté en première mondiale à la Berlinale en 2025, puis choisi par l'Arménie pour la représenter aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international. Shuaib Gazmelbari est un réalisateur soudanais né à Khartoum. Après avoir étudié le cinéma en France, il s'intéresse notamment à l'histoire du cinéma soudanais et aux difficultés rencontrées par les cinéastes dans son pays. Il vient aujourd'hui nous parler de son film Talking About Trees. En 2019, le film a reçu plusieurs distinctions prestigieuses. À la Berlinale, les prix du meilleur documentaire, aussi que les prix du public. Au festival de Carthage, en Tunisie, les Tani d'or, et au Mumbai Film Festival, le Grand Prix du jury. Ce qui nous a donné envie de vous réunir aujourd'hui, c'est que vos deux films regardent vers une génération de cinéastes qui vous a précédé et interrogent ce que devient le cinéma lorsque l'histoire politique vient bouleverser sa transmission. Dans Talking About Trees, Shuaib, tu retrouves quatre cinéastes soudanais qui tentent de faire revivre un cinéma presque disparu de l'espace public dans un pays où les salles ont fermé et où la possibilité même de projeter un film est devenue un combat. Dans Mes fantômes arméniens, Tamara, tu repars des films qui ont accompagné ton enfance, de plusieurs générations de cinéastes arméniens, et de la figure de ton père pour faire surgir une mémoire à la fois intime, familiale et collective. Vos deux films sont très différents, mais ils vont nous permettre de parler de cinéma, bien sûr, mais aussi des désirs de cinéma, de transmission, d'exil, des censures et des résistances. Je passe la parole en français pour nous présenter Tamara Stepanian et Mes fantômes arméniens.
Merci, Niki. Tamara, Mes fantômes arméniens part d'une histoire profondément intime, celle de ton père, le comédien Vigen Stepanian, mais aussi celle du cinéma arménien qui accompagne ton enfance. peu à peu, cette mémoire personnelle rencontre une histoire beaucoup plus vaste, celle du cinéma arménien à l'époque soviétique, de ses contraintes, de ses silences et de ce que les images ont malgré tout conservé. Et tu choisis de nous faire entrer dans cette histoire par un souvenir très concret, celui d'une famille d'artistes réunis devant la télévision. Écoutons la scène d'ouverture du film.
Quand j'étais petite, à l'époque de l'Union soviétique, j'adorais les jeudis soirs.
Հավաքվում էինք բոլորը հեռուստացույցի առջև հայկական ֆիլմերի երեկոեր։
On se réunissait devant la télévision pour regarder des classiques arméniens.
Ժամը 8-ից առաջ մոխրագույն էր։ Ժամը 8-ին սկսվում էր ֆիլմը։
Avant 20h, il n'y avait que du gris. À 20h, ça commençait.
Vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 FM, sur les ondes et en ligne, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. C'est l'émission, on a déjà traité le sujet, de l'Association des cinéastes documentaristes, ADOC. Nous sommes toujours avec Tamara Stepanian pour Mes fantômes arméniens et Souhaïb Gazmelbari pour Talking About Trees. On vient d'écouter le début de Mes fantômes arméniens. Tamara, t'ouvres le film sur ce rituel du jeudi soir. La famille réunie devant la télévision dans l'attente du film classique arménien. Pourquoi était-il important pour toi de commencer précisément par ce souvenir?
Parce que... déjà, bonjour et merci pour l'invitation. Oui, c'est très précis ça, ta question. Et parce que tout commençait là. L'amour de cinéma a commencé là. Effectivement, j'ai grandi dans une famille d'artistes, donc pas seulement mon père et ma mère, mais il y a aussi mes grands-parents qui travaillent dans le cinéma, mon oncle qui travaille dans le cinéma, ma tante qui est peintre. Donc c'est-à-dire qu'il y avait cette famille où il y a eu beaucoup de paroles, beaucoup de créations, beaucoup de liberté. Et ça, j'ai grandi dans cette ambiance. Et effectivement, l'amour du cinéma est né à travers les autres, les adultes. Ils étaient là à m'accompagner dans les différents, chemins qui m'ont amené vers le cinéma. Petite, je n'avais pas imaginé que je vais faire des films un jour. Non, je ne pourrais pas. À l'époque, déjà, le cinéma, c'était pour les hommes, ce n'était pas pour les femmes. Et oui, pour moi, c'était un moment très important parce qu'on était là. Parce qu'il faut comprendre aussi, quand moi j'étais enfant en Arménie, télévision c'était entre telle heure et telle heure. Et surtout c'était très très réglementé, on va dire. C'était gris la plupart du temps. Donc il y avait des dessins animés pour les enfants soviétiques, bien sûr. Mais, et les films. Donc là, ce soir-là, c'était le moment où il y avait ma mère, mon père, ma grand-mère, mon frère. Et on avait hâte, parce que c'était un moment aussi partagé en famille. Donc, il n'avait pas des téléphones, tout ça, comme il y a aujourd'hui. Donc, c'était un moment de découverte, un moment de partage. Mais aujourd'hui, si tu veux aussi les questions que je me pose, parce qu'en fait, aujourd'hui, je fais la même chose avec mes enfants. C'est vendredi soir chez moi. Vendredi soir, je propose à mes enfants des films, comme dit mes enfants, des films noirs et blancs. Oui, parce que c'est important. L'éducation à l'image, c'est important. Parce que si on laisse aujourd'hui... Bon, là, je pars sur d'autres sujets. parce que j'ai un peu de soucis avec ce qu'on regarde sur télé aujourd'hui. Mais oui, tout a commencé là. Donc, c'est pour ça que le film commence là.
Et ce rapport avec l'image en tant qu'enfant, c'était plutôt toujours joyeux ou tu trouvais de tristesse aussi dans les films que tu voyais? C'était quoi le ressenti quand même? L'expérience.
Il y avait beaucoup de joie, je dirais, en tant qu'enfant. Il y avait je trouvais beaucoup de questionnements. Okay. Et ça, c'est intéressant parce que quand on est enfant, on pose des questions autrement que quand on est adulte. C'est-à-dire qu'on est enfant, on n'a pas de filtre. On pose des questions comme ça. Quand on est adulte, on réfléchit plus. Quand on est enfant, on est plus intuitif. Et je pense que ça me posait beaucoup de questions. Je posais beaucoup de questions à mes parents, à ma grand-mère, enfin les adultes qui étaient autour de moi. Après, ça ne veut dire pas que j'avais des réponses. parfois, je pense que les adultes autour de moi étaient un peu... savaient pas trop quoi dire, ou répondaient un peu vite fait. Parce que parfois, je trouve qu'on regardait des films qui n'étaient pas du tout adaptés pour les enfants. Il y avait beaucoup de violence, beaucoup de... politiquement engagés, des films assez politiquement engagés. Mais c'est important. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'on filtre beaucoup les films pour montrer à nos enfants. Et je me pose la question, en fait, qu'est-ce qui est mieux ? Parce que moi, j'ai grandi avec des films qui n'étaient pas du tout adaptés à mon âge, mais ça a réveillé quelque chose en moi, une curiosité, qui, je pense aussi, m'a amenée vers le cinéma, vers essayer de comprendre le monde qui m'entoure, essayer de comprendre la société qui m'entoure. Et effectivement, quand tu grandis pendant l'Union soviétique, c'est quand même assez particulier. Il y a beaucoup de choses qui sont non dites, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas le droit de dire, il y a beaucoup de choses qu'on dit, mais on dit autrement. Mais c'est intéressant, je trouve, tout ça. Ça pousse, je pense, qu'un enfant comme adulte à être créatif, à s'intéresser plus, à, comme le cinéma soviétique arménien, dans toutes ses contraintes, dans toutes ses restrictions et censures, ils ont pu être très créatifs. Moi, je pense qu'il y a des cinémas, des films soviétiques qui sont extraordinaires, malgré la censure et tout.
On va creuser, c'est sûr. Et je te laisse la parole, Niki.
Merci. Shuaib.
Niki.
Talking about this, je suis quatre cinéastes soudanais, quatre grands messieurs, membres du Soudanais Film Group. On apprend qu'ils ont étudié à l'étranger, sont retournés dans leur pays où ils ont réalisé des films, connu les salles de cinéma et vécu une véritable vie cinématographique au Soudan. Leur style et film, ce monde a presque disparu. Ils ont pourtant un projet très simple dans ton film. Et en même temps, presque impossible, restaurer une ancienne salle de cinéma et parvenir à y organiser une projection. Mais ton film ne commence pas par une explication historique ou politique. Il commence par une scène qui nous fait immédiatement entrer dans l'air univers, dans les rapports au cinéma, mais aussi dans les difficultés très concrètes auxquelles ils sont confrontés. Écoutons la scène d'ouverture de Talking About Trees.
Compagnie soudanaise d'électricité, bienvenue au service client.
Allô.
Nous n'avons plus de courant depuis 4 jours, depuis jeudi. Alors on attend ou on laisse tomber ? Bon, ok. Dans combien de temps ? Une heure ? Deux ? Comment ça, aucune idée ? On attend là jusqu'au matin ? On est 175e sur la liste d'attente. Tu as bien dit 175e. C'est sans espoir. Peut-être que depuis jeudi, on est passé 200e. Ou même 5e. Quel mépris. Les gens sont serviles.
Attention.
Al-Tayeb, pousse-toi.
Lights.
Lumière.
Norma.
Tu es prête?
Yes, Mr. Demille.
Oui, Monsieur Demille. What is this? Quelle est la scène?
On the palace stairs.
Celle de l'escalier du palais.
Yes, I'm ready.
Oui, je suis prête.
Cameras. Action. I cannot go on with the scene.
Je ne peux pas jouer.
I'm too happy.
Je suis tellement ému.
Mr. Demille. Can I say a few
Puis-je
words?
Dire quelques mots?
Thank
Merci.
You. You don't know how much I'm happy.
Je voudrais vous dire ma joie de tourner à nouveau avec vous tous.
Because after this film we are going to
Après ce film, nous ferons un autre film
and another
et d'autres
film,
films
and another
encore.
Film. Yes, this is my life.
Oui, c'est ça
There
ma vie.
Is nothing else.
Il n'y a rien d'autre.
It's us.
Rien que nous.
The cameras.
Les caméras.
And all those people
et tous ces merveilleux gens qui dans la nuit regardent.
Yes. Mr. Demille, I'm now ready.
Je suis prête pour le groupe.
La radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. C'est l'émission a déjà traité le sujet de l'association des cinéastes documentaristes ad hoc. Nous sommes toujours avec Tamara Stepanian pour Mes fantômes arméniennes et Shoaib Gazmetbaldi pour Talking About Trees. C'était génial cette scène d'ouverture. On a même dans les studios, on l'a vu, on l'a revu. Et là, on était en train de rire. C'est vraiment. Nous sommes toujours. On apprend déjà beaucoup de choses dans cette première scène. Les difficultés matérielles sont là, mais il y a aussi immédiatement du jeu, de l'humour, un désir très fort de continuer à fabriquer du cinéma malgré tout. Pourquoi avoir choisi d'ouvrir les films de cette manière?
Alors ça s'est décidé un jour après le montage. Quand la monteuse Nili Kitty est partie, elle m'a dit « tu ne touches plus au montage ». Je suis revenu le week-end pour mettre cette scène-là. Je ne sais pas pourquoi j'ai senti vraiment que c'était... Parce que tu sais, quand tu fais un film sur un pays qui est très méconnu, qui est marginal ou marginalisé complètement, on te demande souvent de... Il y a toujours un combat, en fait, où on te demande, il faut faire ça, il faut montrer ça, il faut faire des résumés très longs sur l'histoire politique, sociale et tout ça de ton pays. Et finalement, le film peut perdre son esprit comme ça. Et en fait, de commencer par le jeu... j'ai senti que c'était ça et ce qui...
D'abord par l'électricité, qu'il n'y a pas l'électricité.
Par l'électricité, bien sûr. C'est une règle générale au Soudan que l'électricité, c'est la règle. Et, comment dire, la coupure, c'est la règle. L'électricité, c'est l'exception. Mais par contre, il y avait quelque chose toujours... les moments de coupure d'électricité, c'était des moments où les gens se rassemblent, où je pense la parole, vraiment, et le son... prend vie vraiment et moi j'ai grandi à ça, dans ça et c'est drôle qu'avec Tamara on partage plusieurs points quand je regardais son film et d'abord c'était aussi les jeudis soirs qu'on regardait des films, je sais pas pourquoi les jeudis mais c'était les jeudis soirs et ça c'est dans mon dossier aussi que j'ai présenté pour le film et en fait on attendait tous le moment du jeudi soir mais quelquefois en plein film tac l'électricité, il coupait. Et donc, il fallait attendre la semaine d'après, le jeudi d'après, pour savoir s'ils vont reprendre le film, s'ils vont le compléter ou s'ils vont juste mettre un autre film. Et on doit se débrouiller. Donc, c'est la rareté. En fait, ce qui fait... comment j'ai appris à aimer le cinéma et comment... Où ils ont... aimer le cinéma, ils ont essayé de partager l'amour du cinéma. En fait, ça a toujours été dans la difficulté, dans la rareté. C'est-à-dire, on aime des choses qui sont inaccomplies. C'est comme dans la scène aussi, quand ils font semblant de tourner. Mon film, j'ai toujours voulu qu'il reflète deux choses. D'abord, leur amitié, cette solidarité vraiment inébranlable, qui, comme ils le disent dans le film, qu'ils vont vivre et mourir ensemble. Et la deuxième chose, c'est de montrer comment ils fabriquent de l'histoire, de l'espoir. C'est des philosophes d'espoir. Après des centaines d'échecs, ils ont continué quand même à régénérer de l'espoir de façon complètement magique, mais consciente aussi. Parce que fabriquer l'espoir dans un pays comme, où on voudrait effacer complètement, c'est en fait c'est un acte politique. Cette scène, pour moi, il y avait plusieurs choses. Et c'est aussi c'est une scène où je célébrais ma relation avec les cinéastes qui s'est développée. Au début, ils ne m'ont pas accepté tout de suite comme ça. Il y a deux qui m'ont directement embrassé. Je faisais partie de la famille. Il y a Ibrahim qui est l'aîné, celui qui joue Norma, qui est très méfiant.
Et, on dirait pas.
Et, ah là là, ça a pris beaucoup de temps. On ne montre pas tout dans le film, dans les films. Mais dès qu'elle m'a rencontré la première fois, je rentrais de la France et je les ai rencontrés. Et donc elle me dit, alors, t'as commis exactement la même erreur qu'on a fait il y a 42 ans. Tu fais des études de cinéma et tu reviens ici. Bah, tu vas t'asseoir avec nous sur le banc d'attente. On ne fait pas de cinéma, on attend le cinéma. Et c'était le premier titre de film. Et en fait, avec le temps, c'était très difficile d'engager en relation avec lui. Il me disait toujours, sois patient. Moi, je commence à faire confiance après 40 ans. Maintenant, là, je commence à peine à lui faire confiance. Et donc, il est provocateur comme ça. Et en fait, cette scène-là, je sentais vraiment... C'est une scène que j'ai tournée tard, mais qui reflétait aussi, je célébrais aussi, que j'ai commencé à faire partie de leur groupe. En fait.
Bah, c'est très, très touchant, tout ça.
Et du coup, je rebondis. Ce qu'on voit dans le film, est-ce qu'il y a des scènes... À partir de quand, en fait, tu as utilisé les scènes de ton film ce qu'on voit dans ton film, tu as commencé à les filmer avant, j'imagine, le temps qu'ils te fassent confiance. Et ce qu'on voit, ça correspond à quelle temporalité après les avoir connus, en fait
Il y a de tout. Il y a de tout, mais pas dans le bon ordre, bien sûr. Parce que cette scène-là, c'est vraiment une scène, il faut avoir établi une vraie confiance. Et pas seulement une confiance, en fait, c'est-à-dire d'avoir accepté qu'on joue aussi. Parce que c'est un film, c'est pas sur l'histoire du cinéma, mais sur le désir du cinéma qui a été empêché. Et qu'est-ce qui reste de ce désir-là Et donc c'était très difficile, en fait, de filmer ce qui n'a pas abouti. C'est-à-dire que je voulais vraiment refléter leur envie du cinéma qui a été empêché, mais comment ils ne sont pas du tout dans la frustration de « Ah, mon œuvre, ah, je suis l'artiste qui a été empêché », mais au contraire, ça leur donne encore plus de force pour partager l'image, partager cet amour-là. C'est-à-dire qu'ils montrent des films, ils veulent ouvrir des cinémas, et pour moi, c'est un acte magnifique, vraiment, qui n'est pas égocentrique. Et pour tourner ce genre de film, au départ, c'était... mais tu veux nous ridiculiser ou quoi? Et c'est devenu petit à petit un jeu entre nous, en fait. Quelquefois, c'est vous qui proposez des choses folles comme ça. Mais au départ, c'était... Je l'ai filmé de très loin. En fait, j'ai pris vraiment le temps de les filmer de très loin. Après, ils sont quatre. Ils sont quatre histoires différentes. Mmh. Le rapport était différent avec chacun des quatre.
Moi, je voudrais parce que c'est ce qu'il a dit, ça ressonne beaucoup quand il dit t'as fait la même erreur que nous,
oui.
Partir et ensuite venir faire du cinéma, oui. Au Soudan. Et ça, c'est important parce qu'en fait, vous deux, c'est là où vos parcours se rejoignent. C'est vos deux films, en fait, parlent beaucoup de la génération des cinéastes qui vous a précédé, voilà, mais aussi vos propres parcours quelque part dedans. Il y a un point commun très fort, voilà. Vous êtes tous les deux partis vous former ailleurs. Donc, vous êtes devenus cinéastes à l'étranger, pas vraiment dans votre pays.
C'est vrai.
Donc, Est-ce que ces départs s'inscrivent pour chacun de vous dans des histoires très différentes et c'est là où ça change pour chacun, c'est-à-dire l'exil ou le fait de partir, ça a des significations différentes pour vous deux.
Oui, forcément. Et c'est très intéressant, parce qu'elle a dit tout à l'heure, c'est l'électricité. On avait ce souci et je me souviens, on avait toujours très peur avant que le film commence, s'ils vont couper l'électricité ou pas. Mais ça, c'est, quand tu as dit, mais c'est ce qui était pareil chez nous, parce que c'était le moment de chute Union soviétique, donc on a des vrais soucis d'électricité, l'eau, tout. Donc il avait rien. Mais, donc imagine, tu attends le film, tu sais quel film ils vont montrer, et là, cut, il n'y a pas d'électricité. Et ça, je pense que c'est quelque chose, mais en même temps, le fait de grandir dans cette difficulté, le fait de, parfois, quand il n'y avait pas d'électricité, il y avait beaucoup de moments de partage. Mmh. Du coup, les gens étaient ensemble, on avait, par exemple, une bougie, donc tout le monde allait chez la voisine ou le voisin qui avait le bougie, donc on parlait, on racontait, les enfants ont fabriqué des théâtres, des choses pour amuser les adultes un peu, ou nous-mêmes. Mais ça aussi, ça crée une sorte de complicité entre les adultes, les enfants, les aînés. Mais pour revenir à la question, je pense que c'est quelque chose, quand tu fais des études déjà, pas dans ta langue maternelle, je pense que ta langue maternelle n'est pas le français, mienne n'est pas l'anglais, moi j'ai fait mes études en anglais. Au début, j'étais à l'université américaine au Liban, après j'étais à Copenhague, donc les deux c'était en anglais. Et effectivement, quand tu es formé ailleurs, ça peut ouvrir des choses, ça peut fermer autre chose, mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce désir, ça veut dire que pour moi, mes fantômes arméniens, une des choses aussi qui m'a poussée, c'était déjà à l'âge de 40 ans, de revenir vers les racines et dire, mais en fait, je représente l'Arménie dans plein des festivals internationaux, je suis nommée comme réalisatrice arménienne, mais ça veut dire quoi? Comment tu peux être réalisatrice arménienne quand tu connais pas l'histoire de ton cinéma? Ça veut dire que je connais des lignes un peu comme ça, mais j'avais besoin d'aller regarder 220 films, qui n'étaient pas faciles à regarder tous, mais j'ai pris du temps à faire. Mais j'avais besoin de faire ça pour me permettre de dire, mais oui, je suis pas historienne. Et après, je suis allée aussi lire les archives de tous ces dossiers, des films. Et aujourd'hui, je peux dire oui. C'est en fait comme faire des études, mais un peu tardivement, dans mon cinéma, dans mon pays, dans ma langue. Tu vois? Donc, ça arrivait plus tard. Et mes fantômes arméniens, ça m'a aidé à faire ce chemin.
Réentrer quelque part.
Absolument. Mais j'avais besoin de ça. Et ça m'a fait beaucoup du bien, même si c'était pas facile.
Mais est-ce que si vous serez pas parti, vous serez des cinéastes? Vous pensez? Ça aurait changé quelque chose?
Pour moi, non, pas du tout. Okay. Parce que justement, j'ai grandi. J'ai eu beaucoup plus de chance qu'au Tamara. J'avais pas à regarder 200 films parce qu'il y en avait pas. Il y avait un long métrage dans l'histoire du Soudan, en fait, à cette époque-là, ou deux peut-être. Et après, les quatre cinéastes que je filme là, en fait, il n'y a pas une histoire de cinéma soudanais. En fait, il y a une production cinématographique consacrée complètement à la propagande et la propagande documentaire, si on veut dire ça. Mais il n'y a pas de... En fait, mon film, il ne fait pas la chronique d'un cinéma. En fait, plutôt le cinéma qui a peu existé. Plutôt. Et les quatre, ils représentent vraiment les maudits. Parce que quand ils sont arrivés, de premier jour au Soudan, en fait, ils ont été... sont rentrés au Soudan après des études dans la deuxième dictature. Et donc, ils n'ont pas pu faire beaucoup, beaucoup de leurs projets. Ils sont restés vraiment au désir.
Tu nous parles, avec le film, des trois démocraties et trois dictatures. Et il y a aussi la colonisation, la Deuxième Guerre mondiale. Ouais.
Et ils avaient tous, avec leurs différences respectives... tous ces régimes-là, ce qu'ils avaient en commun aussi, c'est que que le champ de l'image et du son, c'était un champ de combat vraiment. Et tout ce qui a été produit en dehors de ça, c'était vraiment des combats menés par des gens comme les quatre là, des combats très durs. Donc pour moi, en fait, jusqu'au mon départ du Soudan, j'ai eu peut-être la chance de regarder quelques films dans des centres culturels, dont le centre culturel soviétique, en fait, à l'époque, qui était à Khartoum. Mmh. Mais à part ça, j'étais zéro, un grand zéro dans la culture cinématographique. J'ai pas où... Et donc, j'avais une orientation beaucoup plus littérature et tout ça. Et même en arrivant en France, donc d'un exil à l'autre, à la fin, voilà, la France, c'était mon troisième exil. Mon intention n'était pas du tout le cinéma, en fait. Mais j'ai eu la chance de découvrir à Tours le cinéma studio. Et l'avantage d'une petite ville aussi, c'est qu'on très vite on peut trouver ses camarades. Donc j'ai eu la chance qu'il y avait plein de gens qui étaient amoureux de cinéma. Et je devais dévorer des centaines aussi. Pas de cinéma soudanais. Au contraire, le cinéma soudanais, je l'ai découvert beaucoup plus tard parce qu'il n'était pas du tout accessible, en fait. On pouvait lire quelque chose sur leurs films, mais on ne pouvait pas les trouver. Donc, donc l'exil est déterminant dans ça. Si je pense que je serais resté au Soudan, je n'allais pas du tout devenir cinéaste, c'est sûr.
Finalement, votre exil vous a fait revenir sur un cinéma soudanais, arménien.
Oui.
Et les créer aussi, hein, parce que si, à votre manière, d'une certaine manière.
Oui. Mais moi, je pense que si j'ai. Enfin, moi, j'ai quitté l'Arménie, j'avais 12 ans. Mmh. Donc, j'étais vraiment. Je ne sais pas quel âge tu as quitté Soudan.
Je l'ai quitté plusieurs fois.
D'accord. Les premières fois.
Il ne m'a pas laissé partir. La première fois, toute première, j'avais 4 ans pendant 2-3 ans. En l'Union soviétique.
Ah,
donc on a vraiment beaucoup d'histoires en commun. Ça, c'était avec mes parents. La deuxième fois, j'avais 16 ou 17 ans. C'était après la dernière dictature et pour échapper aussi au service militaire et tout ça. Et la troisième fois, je l'ai quitté là en 2023.
D'accord.
C'est après la guerre.
Parce que moi, j'ai quitté l'Arménie à l'âge de 12 ans. Donc, je suis arrivée à Beyrouth en 1994. C'est la fin de guerre civile à Beyrouth. Et il y avait la guerre en Arménie. Enfin, bref, c'était un moment assez particulier. Et je pense que si j'ai resté... Enfin, je pense que je ne suis pas sûre que je serais cinéaste.
Mmh.
Parce que, non. Parce que déjà, à l'époque, en Arménie, le cinéma n'était pas pour les femmes. Donc, le fait que j'ai grandi à Beyrouth, je grandis avec beaucoup de liberté. C'est-à-dire que l'Orient, c'était autre chose. Et Beyrouth, il y a de tout. Beyrouth, tu as déjà toutes les religions possibles et impossibles. Tout le monde vit ensemble. Tout le monde a ça. C'est beaucoup plus fluide. Il y a beaucoup, beaucoup plus d'ouverture qu'en Arménie à l'époque. Et je pense que le fait que je pourrais même... Après, j'étais toujours un peu le mouton noir de la famille, rebelle, impossible, qui est toujours contre tout le monde, qui parlait de droits des femmes, de droits de machin quand j'étais toute petite. Donc, ça veut dire qu'il avait ça qui était toujours en moi. Mais je pense que si j'étais en Arménie, ça aurait été plus écrasé. Parce que, voilà, t'as le droit, pas le droit d'être ci, t'as pas le droit de faire ça. Mais comme mes parents, c'est des gens très libres et très... voilà, et en étant à Beyrouth, on était très seuls, on était loin de la société dans laquelle on était avant. Donc, j'ai grandi avec cette liberté. Et effectivement, quand je voulais faire des études de cinéma, ça a été accueilli un peu avec méfiance. Oh là là, comment tu vas faire? Je voulais faire mes études à Vgik, en Russie, à Moscou, oui. Je voulais faire mes études là-bas et là c'est ma maman qui a dit elle-même, qui a fait des études au conservatoire de Tchaïkovski à Moscou, hein, mais elle a dit hors de question, Tamara il ira pas à Moscou. Et je dis mais attends, toi tu as fait tes études à Moscou, tu me laisses pas partir? Elle m'a dit oui, parce que je fais des études à Moscou, je connais Moscou et avec ton caractère de rebelle tu iras pas. Donc je sais pas si c'est bien ou pas, Mais en tout cas, je suis devenue cinéaste malgré tout. Mais tu sais, en plus, dans ton film, à la fin, n'allez pas en Afrique, je connais par cœur ces dessins animés.
Ah, c'est vrai?
Bien sûr, parce que nous, enfants, on connaissait ces dessins animés. Ouais. Moi, je ne savais pas si les dessins animés réalisés par qui. Ouais. Mais je me souviens très bien, quand j'ai regardé ton film, quand ça commence à parler, j'avais des larmes aux yeux. J'ai dit, mais attends, là, je découvre quelque chose que j'ai regardé. J'avais 9 ans, 10 ans, je ne sais pas, 8 ans. Donc, tu imagines? C'est des trésors. C'est incroyable. Donc, on a beaucoup.
En regardant ton film aussi, j'ai plein de moments de nostalgie. Je suis soudanais, mais j'ai une sorte de nostalgie aussi de l'enfance courte dans l'Union soviétique. La forme de la télé, la maison et tout ça. C'était.
Donc, je pense que vous avez bien trouvé.
Il y a plein de connexions.
Bah, parfait, mais ce que tu as dit, Tamara, c'est très intéressant parce que on n'aurait pas imaginé ces difficultés, c'est-à-dire tu étais entourée par des artistes, on aurait dit ah, la famille serait quand même contente de savoir que la fille allait choisir le cinéma quand même. Et c'est ça où on aimerait bien écouter dans le prochain extrait, parce que c'est plus ou moins le moment où tu es face à face avec ton père, et tu, bon, dans le film, et tu nous expliques ce moment, ce qui s'est donné. Donc voilà, nous laisse écouter.
Tu te souviens? Quand je t'ai annoncé que je voulais devenir réalisatrice, tu avais très peur que je n'y arrive pas.
Assumeir. C'est ça, Dramart, quand tu m'as dit que
tu es. Tu me disais que c'était un métier d'homme.
Régisseur Liné, lui, il me tient que tu es. Yepsk Svetzain Artyok.
Mon désir d'être réalisatrice quand cela a commencé, au juste? J'avais 7 ans quand j'ai joué dans un film d'Edgar Baghdazarian, dans lequel tous les acteurs étaient des enfants. J'étais fascinée par le travail du réalisateur. Il avait transformé le plateau de tournage en énorme terrain de jeu.
Où
nous, les enfants, on jouait à faire la guerre.
Vous êtes sur Radio Libertaire, 89.4 FM, sur les ondes et en ligne, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. C'est l'émission « On a déjà traité le sujet » de l'Association des cinéastes documentaristes ad hoc. Nous sommes toujours avec Tamara Stepanian pour « Mes fantômes arméniens » et Souhaïb Gazmelbari pour « Talking about trees ». Bon, cet extrait, il est assez chargé parce que d'un côté, on a la réaction de ton père, tu l'expliques, bien sûr, et il y a aussi le moment où tu découvres ce que tu veux faire. Tu découvres cette liberté, tu parles d'une liberté. Et c'est quoi cette liberté pour toi? Qu'est-ce qui t'apporte le cinéma en tant que liberté? C'est ça.
Je pense que quand tu grandis et que tu es assez sensible, donc tu regardes autour de toi et tu réalises quand même que tu es dans des sociétés différentes où quand même la femme n'est pas aussi libre qu'un homme. Où il y a des préjugés, où il y a ça, c'est permis pour un homme, ça, ce n'est pas permis pour une femme. Donc, tu grandis, par exemple, où tu es dit qu'être homosexuel, c'est une maladie. Et moi, je me souviens, toute petite, même je savais très bien que j'étais hétérosexuelle, mais je disais, mais non, je veux presque devenir homosexuelle pour vous prouver que c'est normal. Et là, mes parents disaient, mais qu'est-ce que tu racontes ? Ça veut dire que quand tu grandis dans une société où tout est très tranché, limité, mais je parle de Liban, je parle de l'Arménie, tous ces pays de l'Est ou l'Orient aussi, hein. Peut-être au Liban, c'est un peu plus libre, mais même, ça veut dire que je me suis dit, mais en fait, c'est pas possible. Et le cinéma, assez vite, j'ai compris que là, j'ai l'espace de faire tout ce que je veux. J'ai l'espace d'être folle, j'ai l'espace d'être rebelle, j'ai l'espace d'être provocatrice, j'ai l'espace de parler des choses qui sont intimes, en même temps politique, parce que la politique aussi m'a toujours beaucoup intéressée. Moi, jeune, j'étais vraiment au moment où je me disais si je voulais faire political science, donc sciences politiques, je crois qu'on dit en français. Et je sais pourquoi, parce que politique m'a toujours intéressée. Et moi, je trouve que tous mes films, il y a toujours des strata politiquement assez engagés. C'est pour ça, moi, je pense que je me dis, mais quelle est la façon de mieux s'exprimer en étant libre, en étant tout ce qu'on est en train de dire. Mais pour moi, c'était le cinéma. Ça aurait pu être théâtre, ça aurait pu être aussi littérature, dans l'art, en tout cas. Mais je trouvais par exemple théâtre que j'adore, pour moi c'était un peu trop, au début je voulais faire du théâtre mais je trouvais un peu limité. Si les gens m'écoutent maintenant et qu'ils me disent mais qu'est-ce que tu racontes, non, désolée hein, pour ceux qui font du théâtre parce que j'adore le théâtre, mais en même temps je pense que dans le cinéma de travailler avec l'image c'est, je sais pas, je pense qu'on peut inventer des choses, on peut faire des choses complètement extraordinaires avec l'image. Et effectivement, quand j'avais 6 ans, 6-7 ans, j'ai joué dans ce film. Et je regardais, donc c'est le cousin de ma mère, que j'appelle mon oncle, comment il inventait, il réinventait. Ça veut dire que tu es 6-7 ans, tu vois un homme qui a à peu près 25 ans, qui est en train de dire, bon, on est en train de jouer la guerre. Donc on est en train de faire la guerre, on est dans une école, donc on est des enfants, ils nous traitent avec beaucoup de respect et beaucoup d'admiration et beaucoup de... C'est-à-dire, j'ai senti vraiment une sorte de réalisateur qui traite les enfants avec beaucoup de respect et voilà, on est là, et qui explique, mais comme un jeu d'enfant. Après, aujourd'hui, je regarde, j'ai les films, j'ai dit à mes parents, mais comment vous m'avez laissé que j'ai joué dans ce film? Je suis dans une sorte de prison en train de casser ma... Mais c'est fou. Mais aujourd'hui, si quelqu'un me dit, ton enfant, j'ai une fille qui a 7 ans, qui va jouer dans un film comme ça, je dirais, hors de question. Parce que la protection d'enfants, tout ça. Mais là, je dis, mais en fait, heureusement, il n'avait pas ça. C'est horrible de dire ça. Mais bon, non, mais bien sûr, il faut protéger nos enfants. Je suis la première, était complètement hystérique autour de ça. Mais en même temps, je me dis, mais le fait que j'ai participé à cette création, et j'étais là en train de regarder comment Edgar, le réalisateur, faisait des choses. Il avait à l'époque des pellicules, hein, les 35 mm, le son de drrr, comme ça. C'est magnifique, ce son. Il y avait énormes caméras, les projecteurs, tout était fascinant. C'est presque hors de réalité. Et je me dis, mais en fait, j'ai envie d'être dans ça. Bien sûr, parce que là, j'ai senti très, très jeune. Ouais, pardon, je te laisse parler.
C'est génial. Bon, c'est différent chez toi, j'imagine.
Oui, tu peux nous dire si tu veux, ou on peut faire une pause musicale et continuer après, c'est comme vous voulez.
On vote.
C'est une démocratie ici.
Je me suis posé la même question, je pense, en regardant l'extrait de film, là, je me suis dit, oh là là, c'est... ça m'a rappelé Elephant. Mais ouais. Beaucoup plus dur, je pense.
Ouais. Mais pour toi, ça n'a pas été la même... C'est-à-dire, en tant qu'homme, ce n'était pas un problème que tu avais de choisir le cinéma, quelque part.
Bien sûr, c'est quelque chose comme... au Soudan, bien sûr, ce n'est pas du tout connu. Il n'y a pas où vraiment...
Je voulais, en fait, je pense que ça répondait bien avec une question qu'on avait. Mm-hmm. Et quelle est la vie cinématographique au Soudan aujourd'hui? Et quelle était avant, quand tu grandissais? Parce que comme ça, on va comprendre un peu plus
tout à fait.
Là, d'où tu viens.
Je pense jusqu'à les années 80, il y avait un vrai cinéphile au Soudan. Donc... j'étais toujours étonné vraiment par les histoires... de la génération de mes parents ou juste après. Et les reconnaissances vraiment du cinéma. Et je t'ai raconté quand le film Z a été montré à Khartoum, il y avait M. Drakes, je pense qu'il a été porté sur les épaules des gens jusqu'à son hôtel.
Oui.
Donc il n'y avait pas vraiment une scène de production de cinéma, mais il y avait une vraie cinéphilie. Et des cinéma-clubs. Partout dans le pays, il y avait des ciné-clubs, vraiment partout, même dans des villages et tout. Nous, quand le coup d'État est arrivé, en 1989, j'avais 9 ans. Et donc, on a grandi vraiment dans un désert culturel, un désert de tout, en fait. Et un énorme fossé. C'est-à-dire les 4 cinéastes-là, ils se sont rencontrés aussi bien avant leurs études dans les ciné-clubs. Et c'est comme ça qu'ils se sont intéressés naturellement dans le cinéma. Et ils se sont rencontrés dans un ciné-club qui a été fondé par Souad Ibrahim Ahmed, qui était une figure de communisme au Soudan. C'est elle qui a fondé ce ciné-club. Et ce ciné-club, il est devenu vraiment un phénomène social et tout. Pour nous, rien de tout ça. Déjà, le premier jour, c'était le couvre-feu. À 7 heures du soir, tous les cinémas, ils sont ciel ouvert. Hop, là-bas. Donc moi, j'ai grandi vraiment dans un désert. Il n'y avait que les livres. Et même les livres, ils étaient très rares. Il fallait traverser la ville pour les trouver. Mais en fait, sur le chemin, on développe une sorte d'obsession. C'est-à-dire qu'on aime un livre avant de le lire. On aime un film avant de le trouver. Parce qu'on, quelque part, on est conscient que c'est un acte aussi de rébellion, et un acte aussi politique, d'insister, de trouver la chose, de voir, et que c'est un champ de combat, en fait. Qu'est-ce qui est accessible, qu'est-ce qui est empêché. Bon, moi, c'est arrivé beaucoup plus tard, mon intérêt pour le cinéma. Quand, avec Niki, on était à Paris 8, ensemble.
C'est là où on s'est rencontrés.
Je me rappelle, donc, j'étais déjà très étonné qu'elle m'accepte. J'avais presque zéro culture cinématographique. Et le premier cours avec Simoni, je pense, il parle, mais comme en évidence comme ça, de Citizen Kane. Il commence direct, Citizen Kane, blablabla, tout ça. Blablabla. Moi, je me disais,
c'est qui Citizen Kane là?
C'est qui ce monsieur-là? Et à un moment, il s'arrête comme ça, il dit... Bon, vous avez tous vu Citizen Kane, non? Il y en a qui l'ont pas vu, et moi, tout honnête, je fais comme ça, et vraiment comme dans les scènes de comédie américaine, tout ça, tu es le seul. Hop, après, j'ai découvert que j'étais vraiment le seul qui l'a pas vu.
Ou qu'il
donc,
a
c'était une guerre vraiment de construire, d'apprendre le cinéma, mais je suis devenu complètement imprégné dans ça. Et heureusement, Paris 8, c'était vraiment un lieu où on peut trouver tous les films.
Et c'était un espace de grande liberté.
Exactement.
C'est ça de grande liberté, aussi.
Exactement, c'est ça. Moi, j'avais fait des études un peu d'ingénie, tout ça. Donc, pour moi, le cinéma, c'était vraiment la libération de ce que je voulais.
Alors là, je pense, et maintenant, c'est le moment de faire une petite pause musicale. Place à la musique, alors.
Chel se mer karak kstatsvi Yerevan mesh Pari dem kovtseruni im pokri kara Harazatam em pogots u amen mi ba Yesudo une kaisor minor chana pa ke Samar, kez novu misht, kez etim Yerevan, kez etenk Yerevan, Yerevan, et unushenk që, Yerevan e menkenk, Yerevan, anke chtsirele,
Çekerbaz orenke Yerevan Tunuşekçe Yerevan emenken Yerevan Ankehsiyele Çekerbaz orenke Mayra Selov kahaki Morpes gurguren Mer jepitnu Germ hoskere Serene virenk Amen Kahak aşkarum Zarkoh sirtuni Yerevan Sırtiz vasi Du unes hoki Yesu du Unek Aysor Minor çana par Kes amar Kes nov Umişt Kes etenk Yerevan Kes etim Yerevan Yerevan Etunu şençe Yerevan emmenken Yerevan Ankeh sirele Çeger vatsore
On vient d'écouter Forch, un artiste arménien contemporain, et une chanson qui parle de Erevan, ta ville natale, Tamara. Donc, peux-tu nous dire ce que raconte un peu cette chanson et ce qu'elle représente pour toi?
Alors, l'histoire drôle, c'est que Forch, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi parce qu'il était acteur dans le théâtre de mon père. Donc moi, j'étais une petite fille de 5-6 ans et lui, il avait à l'époque 18-19 ans, il était acteur et il chantait aussi. Donc j'ai grandi avec ses chansons parce que c'est un peu l'alternative, c'est un peu, on va dire, le chanteur alternatif, à l'époque surtout, pas du tout connu. Mais il était beaucoup aimé et admiré par des artistes, par des gens du gauche, comme on dit. Et quand j'ai quitté l'Arménie à 12 ans, j'avais... une cassette, à l'époque c'était des cassettes, de Forch. Et un autre chanteur qui s'appelle aussi Ruben Harfelzian. Donc j'avais deux cassettes. Et ces deux cassettes m'ont vraiment sauvée, accompagnée, parce que j'avais beaucoup de nostalgie, j'avais beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes, parce que je ne voulais pas quitter l'Arménie. J'avais 12 ans, j'ai quitté tout, mes grands-parents, mes copines, mes copains, mon amoureux, j'avais un amoureux. Et là, j'arrive dans un pays, dans une ville, je connais rien, les gens parlent arabe, je comprends rien. Et donc, j'avais ces deux cassettes qui m'ont vraiment sauvée, jour et nuit. J'écoutais, je pleurais beaucoup, mais c'était comme, je sais pas, comme mon doudou, comme mon l'espoir. C'était l'espoir pour moi. C'était l'espoir qu'en fait, ça existe encore. Je me retrouvais dans ces mots, je me retrouvais dans ces paroles, dans ces voix. C'était comme des berceuses qui m'accompagnaient, qui me... Les livres aussi, j'avais des livres, la poésie, j'aimais beaucoup la poésie, enfin j'aime toujours. Mais c'est des petits détails comme ça que j'avais dans ma petite valise qui m'ont vraiment sauvé cette tristesse d'être exilée. Et Foch, c'est quelqu'un avec qui je... Là maintenant, c'est un artiste très connu, que tout le monde écoute. Voilà, mais ça représente un lien assez intime qu'il y a à l'enfance. Mais ces chansons-là, il a écrit bien plus tard. C'est mes enfants qui adorent cette chanson. C'est étrange aujourd'hui. Et moi, j'aime beaucoup parce que ce qu'il dit, c'est que Yerevan, donc ça parle de la ville où je suis née. Il dit Yerevan, c'est pas juste une maison ou un immeuble, un appartement. Yerevan, c'est nous. Et aimer Yerevan, c'est pas quelque chose qui est écrit dans la loi, mais c'est quelque chose qui nous appartient. Et je trouve que j'ai grandi vraiment avec ça. Ça veut dire pour moi, de grandir loin de Yerevan, parce que Yerevan, donc c'est la capitale d'Arménie, de grandir loin d'Arménie, mais je m'autorisais à aimer l'Arménie, à aimer Yerevan, et ça m'a vraiment accompagnée dans toute mon enfance. C'est parce que quand t'es déracinée comme ça, d'un coup, tu te poses la question, est-ce que tu as le droit de continuer à aimer cette ville où tu es née? Est-ce que tu as le droit de continuer à dire, mais je viens de Yerevan, je viens d'Arménie? C'est très complexe, ça, parce que tu grandis, tu apprends des langues. J'ai appris l'anglais au d'abord, après j'ai appris l'arabe, après j'ai fait mes études, tout ça. Mais j'ai resté profondément une fille qui vient de Yerevan.
On comprend très bien tout ça. Moi, je le comprends en tout cas, que moi, je suis grecque, je suis pas loin de la Grèce, mais je suis toujours attachée à Thessalonique. Et ça, ça part jamais, je pense. Non. Alors, là, Swahib, dans ton film, on comprend alors la disparition du cinéma au Soudan, et que cette disparition est liée à l'histoire politique du pays, comme tu as dit tout à l'heure. Dans l'extrait que nous allons attendre, ensuite, les cinéastes participent à une émission de radio et l'un d'entre eux emploie une expression particulièrement forte. Il dit que le cinéma est les rois assassinés. On l'écoute l'extrait.
Chers amis, où que vous soyez, bienvenue dans l'émission. À la une.
Un voyage dans l'amour de la patrie, ses enjeux, ses soucis, ses rêves et son avenir. À la une. Chers auditeurs, aujourd'hui, à la une, le cinéma, cet art beau et magique.
Le cinéma soudanais, un héros mort.
Normalement, dans un film, le héros ne meurt pas, mais dans le cinéma soudanais, le héros meurt. Quel honneur d'en parler sur ce plateau avec nos deux invités.
Ibrahim Hamid Shaddad.
Ibrahim Shaddad, réalisateur de renom. Bienvenue. Et Al-Tayeb Mahdi, le célèbre cinéaste. Bonjour.
La corde d'Ibrahim Shaddad a été primée à Damas en 1987. Et pourtant, la terre tourne de Souleymane Mohamed Ibrahim a été primée à Moscou en 1979. Le tombeau d'Al-Tayeb Mahdi a reçu le prix du court-métrage au Caire en 1973. De si belles réalisations datant des années 70 et 80, aujourd'hui, nous cherchons le renouveau de notre cinéma. Nous en avons un besoin vital.
Qu'est-ce qui a précipité la mort du cinéma? Ce héros mort, nous espérons sa résurrection.
Vous avez dit et redit, le héros mort. On peut mourir de mort naturelle ou assassiné par un traître.
Le cinéma n'est pas mort d'une mort naturelle. Il est mort soudainement. Mort, la mort subite d'un héros et meurtre d'un traître. Afin d'en trouver la cause, chercher le traître. Voilà le problème.
Sur Radio Libertaire, 89.4 FM, sur les ondes et en ligne, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. Vous êtes dans On a déjà traité le sujet, l'émission de l'association Ad Hoc. Nous sommes toujours avec Tamara Stepanian pour Mes fantômes arméniennes et Shuaib Gazmelbari pour Talking About This. Shuaib, est-ce que tu peux nous parler de cet héros un peu particulier, les cinémas soudanais?
Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, il n'y a pas eu de cinéma soudanais, mais il y a eu une utopie. Les quatre là, ils sont les porteurs de cette utopie là, qui date du début des années ou du milieu des années 65. C'était un moment d'effervescence vraiment politique. C'était la première révolution populaire qui fait chuter un régime qui était allié et financé par les États-Unis. Et donc, c'était un moment vraiment particulièrement riche en termes de propositions politiques et aussi culturelles et cinématographiques. Et c'est là où, où la culture cinématographique au Soudan a vraiment pris de l'élan. Vers la fin de 80, donc c'était la troisième dictature, comme on dit dans le film, il ne faut pas compter les dictatures au Soudan et les révolutions populaires aussi. Donc après le coup d'État de 1989, au Soudan a apporté un régime au pouvoir, un régime qui a beaucoup de facettes. C'est-à-dire un régime d'abord, c'est un régime islamiste, mais en même temps ultra-libéral, orienté vers un capitalisme parasitaire féroce. Donc ça veut dire culture, santé, éducation, c'est pas du tout dans les...
Accessible.
Oui, c'est même pas dans les comment dire, c'est des privilèges vraiment qu'ils conservent juste pour leurs enfants. Et qui a mis vraiment le pays complètement à genoux, qui a détruit le secteur agricole, qui était la vraie richesse du pays, qui permettait vraiment que ces choses-là, ils roulent aussi, et que les gens aillent à l'école, ou fassent des études, ou regardent des films et tout ça. C'était l'agriculture vraiment qui ça a été complètement effacé, et donc ça a assassiné, en fait, ces quatre-là, ils avaient commencé à fonder un groupe, le Sudanese Film Group, pour créer une structure de production indépendante. Et c'était une expérience assez, comment dire, courageuse. Et ils ont réussi quand même à faire quelques films, à se débrouiller, ça avait inspiré pas mal d'autres personnes aussi. Ils n'ont jamais été soutenus. Du coup, il n'y avait jamais vraiment de cinéma soudanais. Mais quand même, ils n'étaient pas interdits. Après 89, donc la mort du cinéma et l'ère cinéma, et c'est le cinéma qui propose quelque chose d'exigeant au niveau de contenu, au niveau politique et esthétique, a été assassiné parce que ces héros, les quatre-là, ils ont été vraiment... persécutés, ils ont pas couru aussi. C'est vraiment l'histoire. Ils racontent que ces quatre-là, parce qu'ils sont restés très soudés et ils ont survécu aussi, parce qu'il y en a qui sont passés. Et ils ont dû quitter le pays ou emprisonner ou tout ça. Donc c'est vraiment un assassinat physique aussi, d'une possibilité de cinéma. Donc mon film, il raconte le retour après 20 ans de ces quatre amis qui se retrouvent, cette fois avec toujours l'espoir qui devient très lointain de faire de film, mais quand même ils savent qu'en fait leur victoire symbolique possible, c'est de rester au mouvement et de partager, de passer cet amour-là à d'autres personnes.
Parler aussi du cinéma.
Oui. Et en parlant de cinéma, on parle beaucoup d'autres choses, bien sûr.
Est-ce que Alors, malgré ces contextes, alors, les quatre, ces quatre cinéastes continuent d'essayer de faire du cinéma. On comprend, à travers ton documentaire, que le simple fait de montrer un film devient un acte politique, comme tu dis. Et tu nous as dit, alors, qu'est-ce qui est concrètement le cinéma, qu'est-ce qui s'est passé avec l'assassinat du cinéma soudanais et aussi la société soudanaise. C'est parce que l'art, c'est quand même peut-être la première chose qu'on voit, mais c'est vraiment... ça touche toute la société, cet assassinat. C'est ça que tu nous dis. Alors, l'humour, après tout ça qu'ils ont vécu, l'humour est assez présent dans ton film. Mm-hmm. Est-ce que cet humour faisait déjà partie de leur manière de résister, de faire face aux difficultés, ou est-ce que c'est quelque chose que les tournages et les montages ont progressivement relevé?
C'est leur art. C'est les plus grands, je pense, acteurs de burlesque dans la vie, vraiment. Leur amitié a été construite aussi sur ça, en fait, sur le sarcasme, sur le rire, sur la lutte politique, parce qu'ils sont tous quand même engagés, et sur l'humour et le rire, sur de toute blessure. C'est comme ça qu'ils se soignent, entre eux, c'est comme ça qu'ils prennent soin l'un de l'autre. Il y a une scène particulièrement qui était dure pour moi, parce qu'ils ont parlé de leur expérience de prison et de torture. Et quand j'ai monté le film, et à un moment, quand j'ai montré le film, je ne sais pas où, quelqu'un m'a demandé, mais quand même, comment j'ai osé en fait, mettre des rires dans un moment comme ça. Et je lui ai dit, j'ai coupé beaucoup, vraiment. J'ai coupé beaucoup de rires, parce que celui qui riait, c'était ma mère qui a subi encore plus de choses que l'autre. Et je pense que bien sûr, c'est... une façon de se relever, de continuer à résister. Mais c'est aussi conscient, quelquefois, je sens... Bon, le rire n'est pas vraiment toujours conscient, mais par exemple, je pense qu'ils ont développé quand même une philosophie de résistance et de comment continuer. C'est-à-dire, quelquefois, il suffit juste de faire le simple opposé de ce qu'on t'impose. On t'impose d'être immobile, tu dois bouger. On t'impose vraiment de pleurer, rire à la gueule comme ça. C'est...
moi j'étais complètement admirative devant les extraits, parce que je me suis dit, arriver à en faire une résistance au lieu de sombrer dans la folie, c'est des personnages incroyables, quoi.
Oui, moi c'est
vraiment incroyable.
Ils sont source vraiment d'inspiration pour moi. En fait, quand je les ai rencontrés réellement, parce que je connaissais leur nom et tout ça, et j'avais réussi à voir un court-métrage ou deux. Quand je les ai rencontrés la première fois, en fait, c'était... on était pendant notre master, à Paris 8, et je rentrais, en fait, pour explorer la possibilité de tourner le film pour le master. C'était en fiction. Et j'ai été tout de suite confronté à l'impossibilité. En fait, c'était un moment où le régime au Soudan, il voulait s'ouvrir vers le monde. Donc, l'argent, les investisseurs, la Banque mondiale et tout ça, bienvenue. Toute l'art inoffensif, complètement bienvenue. On laisse faire. Donc, ils voulaient créer une sorte de fantôme de liberté, en fait. Faire croire qu'au 1. Et c'était... Mais par contre, pour des gens qui... Comme vous, par exemple, c'est resté interdit jusqu'au dernier moment. Et ce qui était vraiment menaçant, c'était les initiatives populaires prises par les gens et qui sont gratuites. Donc, en fait, avec le temps, le régime a changé de Dieu. Et c'est devenu le dollar.
Ah oui.
Donc, si tu respectais pas la rentabilité, l'argent, c'est te parler d'initiatives culturelles ou tout ça, ou éducatives ou populaires, ça, c'était vraiment menaçant comme langage. Si tu dis, je veux faire une télé, je sais pas, on fait, une série télévisée, Baywatch, ça va passer, tu sais. Même si ça les offense un peu, leurs sentiments religieux et tout ça, mais ça passe. parce que ça apporte de l'argent. Donc, si tu parles le langage de l'argent, tu fais partie de nous. Et donc, très vite, mon film est tombé à l'eau. J'ai compris que pour avoir des possibilités de tourner en fiction, il fallait serrer des mains pleines de sang et tout. Et ça m'a vraiment soigné de les rencontrer à ce moment-là. En fait, c'est là où je les ai rencontrés. Tout mon voyage au Soudan était complètement inutile. Et je les ai rencontrés, ça m'a vraiment soigné.
Je me rappelle quand tu es allé...
Rien qu'on parle de rire.
Pour ces voyages, je me rappelle, on se connaissait.
Ah oui?
Oui.
On se connaît depuis un siècle, tu sais.
Pardon. Non, je voulais juste te poser une question. Je peux?
Oui.
Est-ce qu'à un moment, tu t'es posé la question si tu voulais être dans le film? Ça veut dire qu'on te voit dans le film?
On m'a... Je ne me suis pas posé la question. Je savais dès le début, ce n'est pas mon histoire. Ça va devenir mon histoire, en fait. Ça va devenir mon histoire, mais d'abord raconter les leurs. La production, souvent ils me disaient, mais aussi c'est ton récit de retour et tout ça. Et moi, je ne sentais pas que j'avais.
Je connais très bien ça aussi.
Ouais. Quelque chose.
Oui.
Mais bon, je me suis quand même mis dans le film quand on poussait le camion.
J'étais vu.
Ça aurait été vraiment cynique de laisser quatre. Monsieur,
mais on comprend pas
âge
si...
poussé et moi je suis à l'intérieur.
On connaît pas, si on te connaît pas vraiment, on te reconnaît pas.
Hein. Heureusement.
Mais est-ce que, du coup, tu avais dès le départ ce projet-là, comment a évolué en fait ton histoire, ton film, ton écriture? Parce que ça, je veux avoir des retours, moi j'aimerais bien connaître un peu tout ça, l'écriture de vos films en fait.
On va passer à ça juste après.
Comme ça, parce qu'il y en a, il y en a un très bel extrait qui vient. Parce que pour Tamara, dans son film, on découvre une autre situation, donc totalement différente. Parce que là, sous le régime soviétique, le cinéma arménien est soumis à une censure très forte, certes, mais les films continuent à se faire. Les cinéastes, quelque part, continuent à créer. Et donc, on va écouter un extrait qui nous replonge dans ce contexte et on en parlera après un peu.
La poigne de Staline a pesé sur ce studio pendant plus de 20 ans. Il exigeait que le cinéma soit exclusivement un instrument de propagande.
Zangezur, Hamobek Nazarian, 1938.
Zangezur de Hamobek Nazarian, 1938.
Comment est-elle?
Ta mère?
Ta sœur.
Inkina. Ma femme.
Hayres.
Mon père.
Film, Khortayin Hayastani Zonondi Masi.
Un film sur l'Arménie soviétique.
L'armée
des nationalistes attaque les partisans communistes. Pour faire pression, les familles des soutiens de l'armée rouge ont été prises en otage.
Ma mère. Jusqu'à quand doit-on protéger la
corde?
L'arrivée de l'armée rouge. Lâchez vos armes, levez-vous. Attends, j'ai perdu la tête. Si on se rend, ils vont détruire l'armée rouge, tu as compris. Gardez vos positions.
Tire mon fils.
stalinien med zatomneri jamanakur.
C'est l'époque des grandes purges staliniennes.
Zangezuri arachin scénariste, Artsakagir Axel Bakuntsa, mahapachi eri entarkvel nkarahanumnerits arach.
Le premier scénariste Zanzo, l'écrivain Axel Bakuntsa, sera exécuté par le régime juste avant le tournage.
Ça va être...
Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4 FM, sur les ondes et en ligne, la radio sans Dieu, sans maître et sans publicité, la voix de la Fédération anarchiste. C'est l'émission, on a déjà traité les sujets de l'association des cinéastes documentaristes ad hoc. Nous sommes toujours avec Tamara Stepanian pour Mes fantômes arméniens et Swahib Ghazmelbari pour Talking About Trees. Tamara, ce qui frappe dans cet extrait, c'est que la censure est très présente, mais que le cinéma continue malgré tout se faire. Mais on se pose la question, comment est-ce qu'on crée dans un cadre pareil ? Qu'est-ce qu'on contourne ? Qu'est-ce qu'on déplace ?
Ben, moi, je pense que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas seulement que je regardais les films, mais aussi j'ai lu beaucoup des articles, des archives autour des films. Et ce que j'ai lu aussi, c'était à l'époque de l'Union soviétique, donc il avait le bureau qui lisait le scénario qui était soumis par le scénariste ou la réalisatrice, ou le réalisateur, quelle réalisatrice, il n'y a plus pas, les réalisateurs, et après ils faisaient leurs commentaires, et c'est le bureau décidait quel passage il faut effacer, tout ça. Mais les Arméniens, j'ai un sentiment, en tout cas plusieurs fois, ce qui revient, c'est faire passer des messages par des chansons. Parce que ce n'était pas traduit, les Russes ne comprenaient pas les chansons, c'est que les Arméniens qui comprenaient, mais souvent les Arméniens arrivaient un peu à contourner des choses pour qu'on ne dise pas aux Russes. Donc c'était impressionnant. Par exemple, dans cet extrait-là, on est en train de faire la propagande de l'armée rouge. On attend l'armée rouge qui va sauver les Arméniens. Très bien. Et après, une fois on voit que la mère est assassinée devant le fils par les soldats rouges, par les Arméniens nationalistes, devant le fils qui est plutôt pro-armée rouge. Donc, c'est complètement hallucinant comme image. Tout le monde est arménien, mais voilà, donc par rapport à leurs convictions politiques. Et là, il y a une chanson qui arrive en arménien, ou est chantée par un homme âgé, ou qui dit que c'est les loups. Il faut qu'on chasse les loups. Et qui est le loup? C'est les Russes, c'est l'armée rouge. C'est-à-dire que c'est deux idées contraires complètement qui sont dans le même film. Et on sait très bien que le scénariste de ce film a été tué et que le réalisateur Amo Bek Nazarian, qui est le premier réalisateur arménien grand cinéaste, a été quasiment aussi tué, mais il a réussi à s'échapper et continuer à faire des films. C'est-à-dire quand même, parce que c'est des années 30, donc on n'avait vraiment pas du tout ni le droit ni le moyen à critiquer l'Union soviétique. C'était un peu plus calme ou ouvert plus tard, surtout quand il y avait Brejnev et tout, mais avant, c'était quand même très, très, très dur. Donc là, on parle des années 30. Donc moi, je pense que les cinéastes, par des moyens quand même différents, ils étaient créatifs, ils ont réussi à faire certains choix qui, je pense qu'ils ont vraiment échappé presque à la limite. Enfin, c'était avec beaucoup de difficultés. Il y a ceux qui étaient emprisonnés, il y a ceux qui étaient censurés, il y a ceux qui font des crises cardiaques parce que leur projet était assassiné par le bureau. Je peux vous donner l'exemple de Parajanov. Parajanov qui a fait quand même combien d'années de prison? Parajanov qui était arménien et son projet, donc Le couleur de grenade, Sayat Nova, un des films le plus vus au monde. C'est un film quand même très très connu par le monde entier. Et ce film-là était quand même aussi très très critiqué par le bureau parce que déjà le bureau ne comprenait pas son film. Il disait, mais en fait, on ne comprend pas, qu'est-ce que c'est? C'est trop abstrait, c'est trop artistique, entre guillemets. Il n'y a pas de ligne narrative. Et chaque fois, il demandait à Parajanov d'être présent pour expliquer. Et lui, il trouvait toujours des façons, de manières de ne pas être. La grand-mère qui était morte, le fils qui était malade, la femme qui est partie, lui qui est je ne sais pas quoi. Donc, chaque fois, il trouvait des moyens improbables de dire qu'en fait, moi, je refuse de parler devant le bureau. Donc, c'était... Mais aussi, on sait qu'à quel point il a souffert. C'est un exemple parmi d'autres. Donc, comment contourner la censure? Comment, je pense que c'est aussi ça qui pousse le réalisateur à être créatif, qui pousse la personne de trouver d'autres moyens de s'exprimer. Non, je sais pas, je pense.
Oui, sans sacrifier la possibilité de faire de l'art quelque part. Parce que, quand même, c'est des... si on voit les films, parce que quand on regarde le film, les extraits et tout ça, on voit qu'il y a une grande qualité artistique. C'est-à-dire, c'est bien fait, bien construit. C'est pas un truc improvisé avec trois lumières, machin, pas du tout.
C'était... Parce qu'il y avait aussi des budgets. Il y avait
Exactement, il y avait tout ça, oui.
Pour faire les films. Et à l'époque, en Arménie, les films, c'était très, très populaire. Ça veut dire, tout le monde allait voir, ça apportait beaucoup d'argent. Ils ont compris aussi assez vite que le cinéma peut apporter l'argent. Et donc, ce qui n'est pas forcément le cas d'aujourd'hui des cinémas d'auteur, mais c'est vrai qu'à l'époque, les films d'auteur, les films quand même très, très, avec beaucoup des idées intéressantes, avec des acteurs, des actrices, des thématiques, oui, ça a été très, très vu et ça a été très, très apprécié. Donc oui, ça apportait de l'argent et avec cet argent, ils finançaient les prochains films.
Bon, là, je te passe la parole pour qu'on continue, bien sûr, parce que c'est trop intéressant. Hein.
Alors, moi, je vais revenir sur Swahib. Tu as commencé à parler du titre du film, Talking About Trees, et qu'il y avait un autre titre avant, et que finalement, bon, il y a ce titre. Alors, dans ton film, il y a une phrase... Ce sont des temps où parler d'arbres est presque un crime parce que c'est faire silence sur tant de crimes. Pourquoi avoir choisi ces phrases pour donner son titre au film?
La phrase, elle vient de... c'est une citation de Bertolt Brecht, d'un poème qu'il avait écrit pendant le temps de nazi. Et c'est un poème qui s'appelle « À ceux qui viendront après nous ». Et en fait, pour deux raisons, j'ai choisi ça. D'abord, parce que c'est Manar, elle le dit, mais c'est aussi une phrase que j'entendais beaucoup de mon père dans les années 90. En fait, au moment du coup d'État, donc ma famille faisait partie des familles qui ont été affectées directement par le coup d'État, dès le départ, licenciées de leur travail ou certains arrêtés, tout ça. Et mon père, il a perdu un ami à lui, un médecin, qui était le premier à être à mourir dans les geôles. Il s'appelle Ali Fadoul, qui était un syndicaliste, qui était un médecin pour la gratuité et tout ça. Donc j'ai grandi en écoutant mon père répéter ça. Et en fait, pour moi, c'était vraiment la description de tout. Et pendant longtemps, j'ai pas fait attention au mot parler des arbres est presque un crime. Et je sais pas, j'ai eu une sorte de réflexion philosophique intérieure comme ça, qu'on fait tous nos vies, tout ce qu'on fait, il se tient sur ce presque. Et en connaissant les quatre cinéastes là, j'ai compris aussi. Qu'ils ont toujours vécu avec une sorte de conflit intérieur. Comment tu peux parler de cinéma, de poésie, d'art dans un pays en fait où il y a massacre après massacre en fait. Il y a une violence économique incroyable qui tombe sur les gens et avec le temps tu développes une sorte de même de culpabilité en fait intérieure où l'art il devient quelque chose. Mais en fait. Il faut quand même parler, au contraire, il faut parler des arbres pour parler d'autres choses aussi. Et c'est comme ça que le titre... Et malheureusement, on n'a pas trouvé vraiment un titre en français au moment de la sortie de film ici. un moment, j'ai pensé l'appeler avec le titre de poème, mais ça faisait trop direct la référence à Brechtas. Mais en fait, c'est leur histoire aussi. Tout ce qu'ils font, il y a une partie de ce qu'ils font, ils le font pour ceux qui viendront après eux.
C'est très bien choisi et on comprend vraiment pourquoi.
Ah, merci. Merci beaucoup. Et il y a un arbre en plus dans le film, c'est l'arbre qu'ils plantent devant le local Sudanese Film Group. En fait, c'est impressionnant parce que cet arbre-là, maintenant, on est tous partis, en fait. Tous les lieux de film et tout ça, ils sont... on a tous dû fuir en 2023.
Ils sont partis aussi ?
Oui, ils sont les quatre ensemble en Égypte. Ah. Oui, on a tous... la ville a été vidée, en fait, finalement. La solution pour les militaires... c'était de déplacer les gens physiquement, en fait, c'est-à-dire de vider le pays carrément.
Il garde un lien avec le cinéma en Égypte. Il garde le lien avec le cinéma en Égypte.
Surtout Ibrahim, il essaie de faire de continuer. Il est en train de tourner un troisième volet d'un triptyque de court-métrage. On voit le premier court-métrage dans mon film, en fait. Non, ça c'est le deuxième. C'est moi qui l'ai produit, le deuxième. Il fait le troisième, mais bien sûr, c'est un lien aussi quand même faire avec la situation qui est très dure aussi, de devoir encore partir pour eux. C'est pareil pour moi, en fait. Ce départ-là, il était beaucoup plus dur que le premier départ, parce qu'il est obligé, parce qu'il est soudain aussi, et parce qu'on a commencé quand même à respirer un air de liberté, de voir le fruit de notre engagement. Et donc mais ils sont ensemble, c'est ça qui est génial. Je parle avec eux souvent au téléphone, on fait des appels collectifs et tout ça. Ils boivent leur bière chaque semaine ensemble.
Ouais. Il y a peut-être une suite à faire en Égypte.
J'aimerais faire des histoires heureuses maintenant. Même si c'est une histoire quelque part heureuse aussi, de pouvoir redéfinir en fait ce qui est compte. C'est pas, je pense, s'il voulait renoncer un peu à certaines choses, même pendant le régime précédent, il pouvait tourner des films, mais en fait sont restés intègres jusqu'au bout. Ça a un coût,
mais c'est magnifique. Si on peut rester intègre jusqu'au bout, c'est très très important.
Oui, exactement, c'est ça,
c'est ça le happy end. C'est complètement happy end. Je pense que surtout aujourd'hui, dans les sociétés où on vit, c'est très compliqué de rester intègre. Avec tout ce qui se passe autour, avec tous les différents réseaux sociaux, je sais pas quoi, tout ce qui est autour de nous, je pense que c'est très très compliqué de rester intègre. Donc d'une façon, c'est très happy ending.
Rapidement, j'aimerais juste te poser la même question par rapport à ton titre, parce qu'on parle des fantômes quelque part. Et c'est qui ces fantômes arméniens pour toi?
Alors, je ne peux pas vous dire tout. Non, moi je pense que, comme j'ai raconté tout à l'heure, je pense que le fait que d'être déracinée très jeune, je crois que je vraiment grandis avec les fantômes. Je me suis entourée, ça veut dire que quand j'étais tellement seule que j'avais besoin, ma famille, mes amis, qu'ils ont une sorte de fantôme, parce qu'ils étaient là en Arménie, ils existaient, ils vivaient leur vie, on écrivait des lettres, et pour moi c'était très important d'être entourée par eux. Ça m'a aidée à traverser et de grandir. Après j'ai grandi, après je pense que, mais ces fantômes m'ont accompagnée, après sont devenus d'autres fantômes. Et là, ce qui s'est passé avec mes fantômes arméniens, c'est que j'avais le sentiment que le fantôme de mon père, qui m'a pris la main, qui m'a amené vers, c'est-à-dire la mort de mon père qui est devenu fantôme, m'a amené vers ce cinéma soviétique arménien. Et là, j'avais le sentiment vraiment de rencontrer le passé, les fantômes, et que je me dis, mais en fait, tout ça qui est collectif, mais c'est aussi mienne. C'est pour ça, c'est au début du film, ça s'appelait Armenia Phantom. Armenia Phantom. Arménie Phantom. Et avec le temps, j'ai dit, mais en fait, non, c'est mes fantômes arméniens. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de collectif dans ce film,
c'est très collectif, c'est l'histoire, c'est le cinéma et tout, mais en même temps c'est le mien. C'est un film quand même très personnel. C'est un film, il a une voix off, c'est le mien, où je parle à mon père, mais je parle aussi les fantômes de ce cinéma. Donc c'est pour ça, pour moi, c'est peut-être mon film le plus personnel, en même temps le plus collectif. Et donc c'est pour ça, ça s'appelle Mes fantômes arméniens.
Ce sont deux films super jolis, différents à la fois, mais qu'on a vraiment adoré. C'est pour ça qu'il vous a invité aujourd'hui ici. Vous avez fait un très beau dialogue, on avait plein de questions, plein de choses à dire encore, mais le temps est... Voilà, on arrive à la fin de l'émission.
Déjà ?
Oui.
Wow. Ça passe vite, ça. On a beaucoup de choses à dire.
Ça passe vite. J'ai adoré
ton film. Moi aussi, j'ai adoré ton film.
Alors, parce qu'ils sont très jolis, ces films, on sait que... Et vous complétez si vous avez d'autres informations, bien sûr. Talking About This est actuellement référencé en VOD en France sous plusieurs services, tandis que Fantôme arménien est disponible sur l'Arte dans certains territoires jusqu'à le 6 janvier 2027. Et est-ce que vous savez plus de... Est-ce que c'est bien ça que je dis ou vous avez d'autres...
Pour moi, ça, cette partie de la vie du film, peu m'importe. Je préfère qu'elle soit piratée.
Ah, d'accord.
On est radio.
Et tu peux le dire ici.
Oui, c'est le seul endroit où. Oui,
clairement.
Voilà.
Oui.
Et est-ce que vous avez d'autres projets?
Il faut faire l'agenda, ouais. Non?
Est-ce que vous avez d'autres projets?
Oui, moi je suis en montage d'un film que j'ai tourné avant Mes fantômes arméniens, c'est un documentaire que j'ai tourné à la Maison des Femmes à Saint-Saint-Denis et je travaille sur un deuxième long métrage de fiction.
Voilà. Moi, je travaille sur mon fiction parce que j'avais un projet de documentaire en cours au Soudan, mais...
Bon. Et qui porte sur quoi, vos deux projets de fiction respectifs, là ?
Parle.
Je te laisse. Sur une prochaine émission, peut-être, là, non ? C'est parce que là, on a l'agenda à faire et aussi, on va mettre quand même la dernière musique soudanaise que j'aimerais bien nous dire un peu pourquoi tu l'as choisie.
Oh, maintenant ou après? Oui, je peux le dire maintenant. C'est comme ça,
si le temps... Si tu peux rapidement.
C'est une chanson des années 60, donc je savais que j'allais évoquer la révolution de 65. C'est des chansons qu'on appelle les chansons d'octobre, mais octobre des Soudanais, pas octobre des Russes. et donc, c'est chanté par Werdi, qui est parmi les plus célèbres chanteurs, qui étaient aussi très, 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 très engagés. Les paroles sont très simples. Ils célèbrent vraiment ceux qui ont marché. C'est au vif du moment de 65, première révolution très sociale. Et je pense qu'en grande partie aujourd'hui, on doit à ce moment-là est-ce qu'on est. Parce que aussi en tant que cinéaste, parce que s'il n'y a pas eu ce moment-là, en fait, s'il n'y avait pas eu le ciné-club de ce moment-là, il n'y aurait pas vraiment peut-être la transmission de quelque chose, même si elle a été interrompue, en fait, ça revient à ce moment-là. Donc c'est une chanson qui célèbre ceux qui ont donné leur vie de façon douce et aigre aussi, et que j'ai écouté beaucoup pendant la révolution de 2019 dans laquelle j'ai participé, et elle m'aidait beaucoup à surmonter la terreur de l'idée que tu dois confronter chaque jour, ou quelquefois pour arriver à la vie il faut traverser la mort. Voilà.
C'est une façon très forte à terminer cette émission aujourd'hui. On vous remercie vraiment beaucoup.
Merci à vous et merci Radio Libertaire.
On peut alors écouter un instant.
Mon film est disponible sur les médiathèques de Paris, je pense, gratuitement.
Ah, parfait.
Et aussi sur des sites.
parfait.
Bon, on enregistre l'agenda ou pas?
Oui.
Ok.
Mais on va écouter la musique
Si t'as 10 minutes en plus, ok.
Inna حبيبي وأبي أني أؤمن بالشعب حبيبي وأبي وبأبناء أبناء بلادي